Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi pour lire des versets dans le livre des Colossiens au chapitre 2. Ces versets se trouvent à la page 1339 dans les Bibles bleues. Colossiens 2, verset 8 jusqu'à la fin, verset 23. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Amen.
J'aimerais commencer par une question assez pratique. Est-ce que vous avez été remboursé par la caisse maladie pour vos derniers soins? Vous êtes sûr? Et si vous receviez un email avec l'entête de l'assurance maladie qui vous annonce qu'en fait, vous n'avez pas été remboursé pour tous vos soins. Et il vous suffit de donner quelques informations personnelles, et en particulier des informations bancaires, un accord, et vous allez recevoir cette coquette somme d'environ 400 euros et être remboursé pour vos soins. Il s'agit en fait d'une arnaque qu'on appelle le phishing ou hameçonnage. Et en donnant leurs coordonnées, des personnes vont finalement, et leur accord, vont être prélevées sur leur compte de tout ce qu'ils ont, ou d'une bonne partie de ce qu'ils ont sur le compte. Voyez l'ironie, on pensait gagner plus, et on se retrouve privé de tout, ou d'une bonne partie de ce qu'on avait. Et sur le plan de la foi, c'est un peu ce que l'église de Colosse était en train d'expérimenter sur le plan de la foi, une jeune église. Et on peut résumer les choses ainsi: en ajoutant à Christ, on ne gagne pas plus, on en est privé. En ajoutant à Christ, on ne gagne pas plus, on en est privé. Et je vous suggère le plan suivant: que personne ne vous prenne au piège, on verra dans le verset 8. Vous avez tout pleinement en Christ dans les versets 9 à 15, que personne ne vous en prive dans les versets 16 à 23. Que personne ne vous prenne au piège. Au début du chapitre 2, l'apôtre Paul parle d'un combat qu'il mène pour les Colossiens. Et quel genre de combat? Eh bien, c'est un combat au niveau de leur pensée, au niveau de leur cœur. Ils sont tentés par des faux enseignants qui leur suggèrent de trouver une sagesse et une connaissance ailleurs qu'en Christ. Dans ce qui constitue le cœur de la lettre, versets 6 et 7 du chapitre 2, l'apôtre Paul affirme par des images complémentaires d'un arbre et d'une construction qu'ils ont en Christ la stabilité et aussi tout ce dont ils ont besoin pour grandir en Christ. Et après ces images d'un arbre, d'une construction, il en vient directement à la mise en garde qu'on a entendue. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Que personne ne vous prenne au piège ou que personne ne fasse de vous sa proie, une autre manière de traduire. C'est un peu comme un faux ou attention à l'arnaque qu'on trouve au-dessus de certains articles qui sont proposés ou même dans les médias. Et si on doit mettre ce faux attention à l'arnaque, c'est précisément parce que ça séduit. Ça nous donne envie, on a tendance à y croire. Et en entendant parler de philosophie au verset 8, je ne sais pas quelles sont vos représentations. Est-ce qu'on se représente des faux enseignants qui vantent les mérites d'une vision athée du monde ? Oubliez votre foi en Dieu, arrêtez de croire, ça ne sert à rien. Dans les versets 16 à 23, l'apôtre Paul va donner quelques éléments de ces faux enseignements et on est frappé par le registre religieux. Vous entendez le respect du sabbat, vision, culte des anges, règles alimentaires. Il ne faut pas s'imaginer des faux enseignants qui disent « Laissez tomber la foi en Jésus, abandonnez la foi en Jésus, ne croyez plus en lui. » Ce n'est pas en voulant soustraire à Jésus qu'ils tentent, mais en voulant ajouter à Jésus. Et là, c'est plus tentant justement, plus attirant, n'est-ce pas ? Jésus, c'est très bien pour débuter la vie chrétienne. Mais ce serait peut-être le moment de passer à un autre palier, non ? En termes de connaissance, de sagesse. Ce serait bien de pouvoir passer à autre chose, non ? En tant que chrétien, vous ne voulez pas passer à autre chose ? Écoutez notre philosophie. Jésus, c'est très bien pour faire ses premières armes dans la vie chrétienne, mais là, il faut changer de championnat. On lutte contre les puissances démoniaques. Vous êtes prêts pour ça ? Les principes élémentaires mentionnés ici sont, semble-t-il, une référence à ces puissances à l'œuvre. Jésus, c'est très bien pour démarrer, mais bon, à un moment donné, il faut changer de vitesse. Il faut aller plus vite en termes de discipline, en termes de... Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire appel. Tous les traditions des hommes, les règles mentionnées plus bas. L'arnaque ne consiste pas à soustraire à Christ, mais d'ajouter à Christ. Autrement dit, elle ne viendra pas d'un ami athée qui nous proposerait de lire un livre de Michel Onfray. C'est plus subtil. Ce serait plutôt une personne qui se présente comme étant très croyante et qui veut nous aider par la lecture de tel livre, l'écoute de telle conférence, tel DVD, tel site internet, en nous disant « Vas-y, parce que là, tu vas vraiment trouver ce qu'il te faut. Là, ça va te faire monter à un autre palier. » Et quand on regarde le contenu, ça parle de Jésus. Mais on voit que c'est ailleurs qu'il faut trouver une plus grande sagesse, une plus grande puissance, une plus grande discipline. Et le problème, c'est qu'en voulant ajouter à Christ, on soustrait, on s'en trouve privé. Mais au fait, qu'est-ce qu'on a en Christ ? Qu'est-ce qu'on a en Christ ? C'est la deuxième partie, versets 9 à 15. Vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. J'imagine qu'on a tous déjà versé dans un verre jus d'orange, de l'eau ou du vin jusqu'au rebord du verre. Et une fois qu'on a fait cela, est-ce qu'il nous viendrait même à l'idée de se dire « Allez, je crois que je vais en rajouter encore un peu. » Comme si ça ne suffisait pas. En Christ, il y a le Dieu créateur. Il y a « Je suis l'Éternel, omniprésent, omniscient ». Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et il faudrait ajouter à Christ, celui que nous avons reçu, verset 6, accueilli, vous avez tout pleinement en lui. Vouloir ajouter à Christ, ce serait un peu comme le voir comme un sirop. Il remplira une partie du verre, mais après, bon, il faut compléter, il va falloir autre chose. Et en écrivant cette lettre, l'apôtre Paul n'écrit pas dans un vide. Les commentateurs sont divisés quant à la nature des faux enseignements, mais on trouve des remarques et des termes qui sont issus de leur cadre de référence dans son combat pour les Colossiens, verset 2. Il parle de la connaissance du mystère de Dieu, du Père et du Christ. Dans le monde gréco-romain, à l'époque, il existait ce qu'on appelle des religions à mystère, des cultes à mystère. Le terme mystère fait référence à l'aspect secret, réservé à des initiés. Et pour participer à ces cultes à mystère, l'initié devait passer par des rites d'initiation. Et qu'est-ce qui intéressait ces initiés? En particulier la purification, la conversion des mœurs. Et l'initié devait montrer sa détermination, son courage, sa bravoure, sa vertu, sa droiture. Et si l'apôtre Paul évoque le mystère de Dieu ici, c'est pour dire que ce mystère est révélé en Christ. S'il évoque deux rites ici, la circoncision et le baptême, c'est pour dire que leur réalité est accomplie par Christ. La circoncision, c'était le rite pratiqué dans l'Ancien Testament, dans la vie des croyants sous l'Ancienne Alliance. Le baptême, c'est le rite pratiqué au début de la vie chrétienne. Mais dans les deux cas, l'accent n'est pas mis sur l'initié. Selon Paul, tous deux renvoient à l'œuvre accomplie par Jésus. Prenez la circoncision, verset 11. Dans l'Ancien Testament déjà, la circoncision était un signe qui renvoyait à une plus grande circoncision. Pas simplement un morceau de peau, mais tout un être, un cœur qui devait être circoncis. L'apôtre Paul précise ici que la vraie circoncision n'a pas été faite par la main d'un homme en Christ. Ce n'est pas seulement un morceau de peau, c'est tout le corps de notre nature pécheresse qui est enlevé, verset 11. À Colosse, avec peut-être un désir d'en finir avec le péché, certains étaient tentés de retourner à un rite comme celui de la circoncision. Mais l'apôtre Paul montre qu'elle a déjà été accomplie par Christ, cette circoncision. Pareil avec le baptême. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est baptisé? Eh bien, en étant immergé dans l'eau, en étant plongé dans l'eau, il est comme identifié, associé à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection lorsqu'il ressort. Vous voulez une purification? Vous avez déjà été circoncis en Christ. Vous voulez une transformation? Vous avez déjà été enseveli avec Christ et vous êtes ressuscité avec lui. Vous avez tout pleinement en Christ. Et après avoir mentionné deux rites, il mentionne ensuite deux bénéfices de l'œuvre de Christ. Le pardon et la victoire. Le pardon dans les versets 13 à 14 et la victoire dans les versets 14 et 15. Le pardon des fautes d'abord. Verset 13, il nous a pardonné toutes nos fautes. Comment savoir si vous êtes pardonné? J'imagine comme moi, de temps à autre, on se souvient d'une offense vis-à-vis de Dieu, que ce soit par des circonstances, une expression, tout simplement un souvenir. Qu'est-ce qui nous assure que nous sommes pardonnés? Les circonstances? Nos émotions? Où est-ce qu'on va regarder pour se savoir pardonner? L'apôtre Paul affirme que c'est à Christ qu'il faut regarder, et en particulier à la croix. Il l'illustre au verset 14. L'apôtre Paul parle là d'un acte qui est rédigé contre nous et qui nous condamne car nous sommes en infraction par rapport à la loi de Dieu. Imaginons un excès de vitesse. Bon, imaginons, on va se projeter, je sais que personne n'est concerné ici, mais imaginons qu'on soit concerné par un excès de vitesse. Quelques semaines plus tard, vous recevez un avis de contravention. Et la première réaction, c'est que vous êtes tenté de vous dire, mais c'était pas moi. C'était pas à cette vitesse-là que je roulais. Ou c'est pas mon véhicule, c'était quelqu'un d'autre. Mais l'acte est bel et bien là, rédigé contre vous. Du point de vue de la loi, vous avez une dette, vous avez une contravention à payer. Mais quelqu'un de bienveillant dans votre entourage a envie de vous faire un geste particulier, prend cette contravention et sans que vous le sachiez, avec sa propre carte de crédit, va payer cet avis de contravention. Vous n'avez plus de dette, elle a été réglée cette amende. Vous l'avez compris, l'acte rédigé contre nous par Dieu est bien plus fort en termes de dette, incomparable avec une simple amende. Imaginez toute une vie de rébellion vis-à-vis de Dieu, toute une vie où on a envie de vivre comme on a envie de vivre et pas en référence à Dieu. Toutes nos pensées, nos paroles, nos actes qui témoignent d'une indépendance par rapport à Dieu, au Dieu saint. Et l'apôtre Paul dit au verset 13 que nous étions par nature morts. C'est là que tous ces actes nous dirigeaient, vers la mort. Mais c'est cette mort que Jésus encaisse justement à la croix. Et quand on se souvient des pires choses dont on a été capable, où est-ce qu'on va regarder pour se savoir pardonner ? À la croix, justement. À la croix où Jésus a porté cet acte rédigé contre nous, qui nous condamnait. Et c'est comme si Jésus disait « C'était de ma faute. » C'était de ma faute. Et est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit à ce moment-là, alors qu'on s'entend dire cela, de dire que ça ne suffit pas, il va falloir trouver autre chose pour me savoir pardonner, que sa mort à la croix ne suffit pas. Le deuxième bénéfice mentionné ici par l'apôtre Paul est aussi lié à la croix. Au verset 15, il écrit « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Victoire contre les puissances du mal. Par la croix, ça paraît étrange comme lieu de victoire. Ça paraît être un lieu de défaite, le lieu de défaite par excellence. Quelqu'un qui est dévêtu, exposé, cloué à une croix. Comment comprendre ? Voici comment un théologien l'explique, et je paraphrase. Le fondement du pouvoir de Satan, la sphère de son pouvoir, le secret de sa force, c'est le péché. Et sa force est dans l'accusation. Mais enlever cette culpabilité, enlever cette accusation, et tout son règne s'effondre. Tout son pouvoir s'envole. Et ses puissances sont forcées de le reconnaître. Paul utilise l'image d'un cortège triomphal qui rentre à Rome. Un général de l'armée romaine pouvait prétendre qu'il avait remporté une victoire à l'étranger. Mais c'est le cortège qui l'amène. Des représentants du peuple vaincu, désarmés, enchaînés, en cortège, en sont la démonstration. Ils ont été vaincus. Qui d'autre que Christ peut prétendre remporter une victoire sur les puissances du mal ? Cette victoire, elle a déjà été remportée à la croix. Alors pourquoi chercher ailleurs dans tel ou tel rite, cérémonie, où parfois on entend des expressions, une prise d'autorité que nous aurions dans telle expression, tel langage ? Verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est lui seul qui domine. Troisièmement, que personne ne vous en prive. Quelle est votre réponse quand vous recevez un coup de fil à la maison ou sur votre portable, quelqu'un qui vous suggère un tout nouveau produit, une nouvelle assurance, ou alors le meilleur aspirateur sur le marché? Un forfait imbattable. Qu'est-ce que vous allez répondre pour couper court à une conversation qui va durer ? Non, merci. C'est gentil. J'ai déjà ce qu'il me faut. Ce serait pas mal, ça, non ? J'ai déjà ce qu'il me faut. Ils vont peut-être insister quand même, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Ce serait une réponse. Verset 8, l'apôtre Paul a déjà mis en garde ses lecteurs que personne ne vous prenne au piège. On en retrouve deux autres de mise en garde. Verset 16, que personne ne vous juge. Verset 18, que personne ne vous prive de la victoire. Le problème avec les faux enseignements à Colosse, c'est d'une part qu'en voulant ajouter à Christ, ils amènent les chrétiens à s'en priver, paradoxalement. Ensuite, ils placent les chrétiens dans la peau de ceux qui se sentent jugés, pas assez spirituels, regardés de haut. Et ils les poussent à être disqualifiés, privés de victoire, parce que cherchant la victoire ailleurs qu'en Christ, alors que c'est la seule, seulement en Christ qu'elle se trouve. À quoi ressemblaient ces faux enseignements ? De nouveau, on n'a pas des éléments précis. On essaie de reconstituer sur la base, en particulier, des versets 16 à 23, mais on peut peut-être relever trois tendances qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Une tentation ritualiste dans le verset 16, une tentation mystique dans le verset 18, une tentation légaliste dans les versets 20, 21. Et on va les prendre tour à tour pour essayer de voir à quoi ça pourrait ressembler pour nous. La tentation ritualiste, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Et on peut se poser la question, n'y avait-il pas des lois alimentaires dans l'Ancien Testament ? N'y avait-il pas des fêtes importantes ? Le sabbat n'est-il pas important ? Alors qu'est-ce qui pose problème ? Cette tentation ritualiste prétend apporter une plus grande piété, un plus grand attachement à Dieu. D'une part, le problème de ces rituels, c'est qu'ils mènent au jugement de ceux qui ne les pratiquent pas. C'est le premier problème. Mais le problème de fond, c'est qu'en s'attachant à ces rituels, on poursuit l'ombre de Christ plutôt que la réalité. Qu'est-ce que vous diriez d'une personne qui est constamment en train de suivre votre ombre et plutôt que de s'adresser à vous, s'adresse à votre ombre ? On dirait que la personne a probablement un problème. Mais c'est un peu pareil, être focalisé sur les lois alimentaires, les fêtes, la manière de célébrer telle fête, c'est se focaliser sur l'ombre alors que la réalité est en Christ. Dans l'Ancien Testament, chacun de ces éléments devait aider les croyants à mieux connaître Christ. Mais une fois qu'il est là, c'est à lui qu'il faut regarder. Alors à quoi est-ce que ça pourrait correspondre aujourd'hui ? Bah, peut-être que, comme eux, on serait tenté par certaines fêtes qui, dans notre calendrier, sont particulières. Et il y a comme quelque chose de sacré autour de la célébration de cette fête, peut-être le fait de jeûner particulièrement ce jour-là. On pourrait être tenté aussi peut-être par des lieux pour rencontrer Dieu, pour être dans sa présence, comme le tabernacle ou le temple dans l'Ancien Testament. Ou prenons la musique. On pourrait voir dans l'allusion de David, l'histoire de David qui rentre avec l'arche à Jérusalem, les chants, les danses, conclure que c'est grâce à la musique qu'on entre dans la présence de Dieu. Chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul parlera de l'utilité de la louange pour que la parole du Christ demeure en nous, dans toute sa richesse. La musique, le chant, de l'importance, de l'utilité pour que la parole du Christ demeure en nous. Mais le problème survient lorsqu'on fait de la musique le moyen d'entrer dans la présence de Dieu, alors que la présence de Dieu se trouve en Christ. Paul évoque ensuite une tentation mystique, le culte des anges, des visions, verset 18. Et le problème n'est pas avec les visions en tant que telles, après tout l'apôtre Paul en a eu. Et vous avez probablement entendu le témoignage de l'une ou l'autre personne qui a eu une vision, une révélation. Mais le problème avec les visions ici, c'est que, selon l'apôtre Paul, elles sont déconnectées de celui qui est la tête, verset 19. Et on doit se poser la question avec n'importe quelle vision. Est-ce qu'elle mène vers Jésus ? Est-ce qu'elle porte des fruits qui témoignent de cet attachement à Jésus ? Qu'est-ce que ça entraîne comme comportement ? L'apôtre Paul dit ici que c'est l'orgueil qui caractérise ces visions-là. Est-ce qu'elle nous détache de celui qui est la tête? N'est-ce pas lui qui doit diriger, lui qui doit contrôler, lui qui nourrit comme la tête? Dans un mouvement comme celui de Bethel, une église en Californie, il est question de réveiller les anges pour qu'ils agissent dans la vie des croyants. Dans cette église et dans d'autres, on affirme que la guérison des chrétiens n'est pas seulement souhaitable, elle est incontournable pour tout chrétien qui se respecte. Il faut être guéri. Est-ce qu'on fait de telles manifestations surnaturelles une condition de la vie chrétienne? Et d'une manière plus subtile, est-ce que certaines de nos expériences nous amènent à porter un jugement sur des frères, des sœurs? Est-ce que Paul dénonce l'orgueil au verset 18? Lorsque j'étais jeune, et je me souviens de lectures que je faisais dans la Bible et où j'avais l'impression que cette parole était si à propos, si juste dans ma situation. Et plutôt que de simplement remercier Dieu pour cela, je me souviens plusieurs fois avoir eu ce regard un peu condescendant vis-à-vis de personnes qui n'auraient pas eu ce même genre d'expérience, tel frère ou telle sœur qui n'a pas eu l'équivalent. La troisième tentation, c'est celle du légalisme au verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. On a besoin de définir ce légalisme. Après tout, l'apôtre Paul, il ne peut pas dire que la loi n'a plus de valeur. On le voit dans d'autres textes. Oui, la loi a encore de la valeur. Il ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'importance à la discipline. Lui-même était très discipliné. Il parle dans plusieurs passages de l'importance de la discipline. Alors, quel est ce légalisme? Ce qui pose problème ici, c'est d'une part que ceux qui pratiquent ces règles veulent soumettre les autres, verset 20. Le problème, c'est que ces règles sont d'origine humaine plutôt que divine, verset 21. Le problème, c'est qu'elles ont pour but une satisfaction personnelle, verset 22. Quand on essaie un peu de les retrouver, c'est peut-être plus facile avec le recul de l'histoire de les voir, de les retrouver. Je me souviens de la manière dont mes grands-parents, qui vivaient en Irlande du Nord, vivaient le dimanche. Le dimanche, quand j'étais chez mes grands-parents, on ne regardait pas la télévision, on n'écoutait pas de musique qui n'était pas chrétienne. Ce jour-là, on passait l'essentiel de notre temps dans des conversations, à chanter des cantiques chrétiens, à marcher ou se balader. Et en fait, je ne pense pas avoir vécu quelque chose d'étouffant. Je pense même avoir vécu des moments bienfaisants dans ce contexte-là. Mais c'était tentant, et je pense avoir cédé à cette tentation, de voir un chrétien qui ne faisait pas les choses comme je les faisais à ce moment-là, comme moins spirituel, moins engagé. C'est plus difficile à déceler sans le recul de l'histoire. Mais quelles sont les règles que nous aurions tendance à établir ou à vouloir imposer à d'autres en les regardant de haut? Telle manière de méditer la parole, telle manière de célébrer un culte, telle manière de louer Dieu. Quelles sont les règles que nous aurions tendance à établir? Ça peut être aussi dans le domaine des films, de la musique. Quelles sont les règles humaines que nous aurions tendance à imposer à d'autres? Qu'est-ce qu'on va répondre à quelqu'un qui nous propose des rituels, des expériences surnaturelles, des règles humaines qu'il faut ajouter à Christ pour devenir un meilleur chrétien? Merci, c'est gentil. J'ai déjà ce qu'il me faut. En Christ. En ajoutant à Christ, on ne gagne pas plus, on en est privé. Amen.